Team Trail Experience. Géraldine, aka JJ pour les intimes, a 34 ans. Cette bretonne dans l'âme a commencé la course à pied aux côtés d'un père plutôt branché route. Elle a épinglé son premier dossard à l'âge de 6 ans en participant à une course de quartier. Mais son coup de cœur premier fut le basket, qu'elle a pratiqué pendant de nombreuses années. C'est à l'âge de 16 ans, suite à une blessure, qu'elle a été contrainte de laisser le ballon de côté pour se rabattre sur la course à pied. 10 ans plus tard, cette amatrice de compétition décide de s'inscrire à l'iconique Marathon de Paris. C'est en prenant un dossard sur l'éco-trail, course qui faisait partie de son plan d'entraînement, que Géraldine tombe sous le charme du trail running. Maintenant, place à Géraldine, elle va partager avec nous son aventure en plein cœur du Guatemala et du Mexique.
Donc moi, ce qui me motive, c'est ça, c'est l'ambiance montagne. Je sais pas, il y a une ambiance particulière en trail. Alors bien sûr, ça dépend des trails, hein, ils sont pas tous identiques. Mais il y a une ambiance qu'on n'a pas sur route. Et je préfère l'ambiance trail où on partage, on prend plus de temps. Quand on arrive au ravito, on va toujours discuter avec les bénévoles. C'est un univers plus varié que la course sur route, je trouve. C'est plus technique aussi, donc il y a plus de paramètres à prendre en compte. Donc moi, il y a plein de choses qui me motivent dans le trail et je trouve que enfin, l'entraînement de la course sur route, il est pour moi plus fastidieux. J'y prends beaucoup moins de plaisir, par exemple, que quand m'entraîner en trail, qui est pour moi pas fastidieux. Enfin, il n'y a aucun moment où je vais m'ennuyer quoi, quand je vais aller courir en montagne. Les courses, elles sont longues, mais il se passe tellement de choses dans une course de trail que... On n'a jamais vraiment le temps de s'ennuyer, quoi. Je pense qu'il y a un peu un virus quand on commence le trail, c'est qu'on se dit on peut toujours un peu pousser parce que en course sur route, bah, le marathon, c'est un peu le Saint Graal. Effectivement, il y a des 100 km de route, mais bon, là, on passe quand même dans une dimension particulière. Et c'est vrai qu'en trail, tu as toujours l'impression qu'on peut aller toujours un peu plus loin, toujours plus. Tu peux toujours, toujours avoir plus. Au départ, tu te dis, bah, je vais m'arrêter à ça. Puis, bah, pourquoi pas aller faire un peu plus long? Pourquoi pas faire un peu plus long? C'est un peu le défi, je pense, de se dire, bah, on a fait 40, on peut faire 60. On fait 60, on peut peut-être tenter de 80. Et je trouve que c'est toujours des ambiances de course assez différentes sur chacune des différentes distances. On ne cherche pas toujours la même chose sur un 40 ou un 140 ou un 160. Moi, sur les ultras, je trouve que ce qui est plaisant déjà, c'est que c'est une course qui est... pleine de surprises. On sait qu'on s'inscrit, on sait où on met les pieds, mais on ne sait pas si on va arriver, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est tellement long comme course qu'en réalité, même les mieux préparés ne sont même pas sûrs de terminer. Puis il y a plein d'autres paramètres voilà, qui rentrent en compte. Il va y avoir l'alimentation. Enfin, il y a la gestion de la nuit, la gestion du froid en altitude. Enfin, je trouve que c'est vraiment une discipline ouais, qui est complète, ultra. Et qui laisse plus de temps aussi pour profiter de la course, quoi. Parce que c'est, pour le coup, y a le temps de partager avec d'autres coureurs qu'on ne fait pas forcément sur des petits formats où c'est beaucoup plus intensif, on va dire. Sur un ultra, on peut rester discuter avec les autres, prendre le temps. En fait, c'est un peu une grande aventure. On part pour des heures et des heures et on sait qu'on va avoir le temps de bien en profiter. Alors moi, je voulais parler d'une course que j'ai faite l'année dernière au Mexique qui s'appelle Ultra Coahuila. Coahuila, ça se situe dans le nord-est du Mexique, un peu au sud de Monterrey, un peu ces zones un petit peu arides là. Voilà, moi, je l'avais fait l'année dernière parce que j'étais partie en voyage là-bas et je m'étais dit que c'était un peu l'occasion de finir le voyage, quoi. Parce que je préparais l'ultra des Pyrénées fin août. Et je m'étais dit, voilà, fin juin, c'est un peu le moment justement de caler une course préparatoire. Et comme j'étais en voyage, je me dis, on peut allier les deux peut-être et tenter de faire une course à l'étranger au même moment que je suis en train de voyager, toi. J'étais partie en voyage pour 3 mois entre le Mexique et le Guatemala. J'avais regardé s'il y avait des trails là-bas un peu longue distance. Et c'était un peu celui, en tout cas, qui était bien calée en fin de voyage, parce que je voulais pas que ce soit non plus en plein milieu de, pas forcément en plein milieu de mon séjour. Et donc il arrivait pile en fin. Et puis c'est surtout que il me paraissait assez sérieux dans l'organisation, parce qu'on ne sait pas aussi quand. Enfin, c'est pas un pays que je connais très bien. Je ne sais pas comment ils sont en termes d'organisation des trails. Je sais que c'est pas forcément une pratique qui est très encore aussi développée qu'on pourrait l'avoir en France, par exemple. Donc t'as dit, je veux quand même un truc un peu sérieux, que je me retrouve pas à me perdre dans la pampa mexicaine. Puis un truc suffisamment aussi important en termes d'événements, voilà, qui me paraissent un peu sympa à participer, quoi. Il y avait quasiment que celui-là, parce que je crois qu'il y avait l'Ultra de Mexico, mais en termes de date, ça allait pas. Donc bah, j'avais repéré celui-là et ça, j'ai dit bon bah allez, pourquoi pas. C'est pas forcément celui qui était le plus sur mon trajet initial de voyage, mais bon, j'ai fait un petit détour de quelques heures, on va dire, pour aller faire celui-là. J'avais jamais eu l'occasion de coupler les deux. Enfin, j'ai l'habitude de faire des trails, j'ai l'habitude de voyager, mais j'ai jamais eu l'habitude de voyager et me dire qu'en même temps que je voyage, je vais essayer de préparer un trail. Alors, c'était préparer celui-là, mais aussi préparer celui des Pyrénées, hein, les deux aller un peu ensemble. Et c'est pas facile finalement. C'est pas forcément quelque chose peut-être que je referais. C'était sympa à expérimenter, mais c'est vrai que c'est pas le peut-être la chose la plus aisée à faire, de voyager en même temps qu'on essaye de préparer une course. Alors, il y avait plusieurs choses, je dirais. La première, c'est qu'effectivement, déjà, le Mexique et le Guatemala, on ne peut pas dire que ce soit des terres de trail. Enfin, ils ont. Alors, c'est. Paradoxalement, c'est des pays qui ont énormément de montagnes et de volcans. Enfin, c'est pour le coup, pour aller s'entraîner, je pense que c'est des endroits qui sont magnifiques, en plus en altitude. Donc, ça fait une bonne préparation pour les globules. Mais au-delà de ça, ce n'est pas des pays pour l'instant qui ont centré, on va dire, leur activité touristique sur tout ce qui est les activités de montagne. Alors, ils commencent un petit peu. Guatemala, on peut aller faire beaucoup de randonnées maintenant sur les volcans. Mexique, ça commence un petit peu. Mais ça reste pas leur cœur touristique, qui est quand même, on connaît beaucoup plus les plages, les sites touristiques, enfin les sites archéologiques, beaucoup plus que la montagne finalement au Mexique. Et pourtant, ils en ont beaucoup. Donc, c'était pas facile pour moi de réussir à trouver les bons endroits pour s'entraîner parce que c'est pas aménagé du coup. De fait, vu qu'ils ne sentent pas leur activité là-dessus, bah, les sentiers ne sont pas forcément balisés. Donc, c'est assez compliqué de trouver où aller s'entraîner. Puis, ça reste des pays aussi où finalement, il y a quand même ils ne sont pas, on va dire, dangereux en eux-mêmes, mais il y a des endroits qui le restent, mine de rien. Ces pays sont très grands et du coup, aussi, en termes de géographie, de climat, il faut réussir à gérer ces écarts de température, quoi, parce que Mexique, il y a quand même des endroits, le sud, c'est de la jungle, quoi, donc bon, aller faire du trail dans la jungle, c'est assez étouffant, c'est très particulier. Il y a toutes les zones au sud de Mexico ou sur les plages où c'est une fournaise vraiment, enfin, on brûle au soleil, quoi, littéralement. Donc il y avait tout ça un petit peu à gérer. Alors moi, j'ai adapté. Justement, mon voyage, et c'est ça aussi peut-être la troisième complexité, c'est qu'il faut un peu s'organiser finalement, comme ça, sur 3 mois de voyage, pour réussir à faire un peu caler son planning de voyage itinérant sur un peu aussi son planning d'entraînement. Il y avait des endroits où je savais qu'il y avait des randonnées, on va dire. Donc je me disais, si on peut les randonner, on peut aussi potentiellement les courir. Donc, déjà, ça, je m'étais noté un petit peu les endroits où il y avait des grosses randonnées au Guatemala, il y a une ville qui s'appelle Antigua, où il y a pas mal de volcans, et puis il y a un lac à côté aussi qui est tout entouré de volcans. Je savais que ces endroits-là étaient connus un peu pour les randonnées. Donc, je me dis, bon, il n'y a pas de. Enfin, là, je devrais pouvoir aller courir. Donc, celles-là, en général, je les repérais un petit peu comme ça, où j'allongeais un petit peu les randonnées. Pour en faire des boucles un peu plus. Faisais deux, trois randonnées en une, on va dire. J'avais maintenant, avec toutes les applications et ces petites choses-là, c'est vrai qu'on peut quand même réussir à tracer. Alors moi, j'avais une application où il y a des cartes de chaleur. Donc, on voit la fréquentation de certains endroits, des circuits de randonnée. Et c'est vrai qu'au Mexique, particulièrement, eux font beaucoup de VTT. cours un peu, mais c'est vrai que le VTT est assez développé là-bas et du coup, je récupérais pas mal de tracés de VTT qui étaient déjà insuffisamment longs pour que je puisse m'entraîner. Et puis, j'étais sûre que normalement, les chemins devraient être praticables pour de la course à pied. Notamment, moi, j'avais été me préparer ce qu'on appelle les week-ends chocs qui arrivent à peu près autour des 3 semaines, 1 mois avant les courses. On fait un peu plus de volume de course sur une période donnée. Et j'avais rencontré un autre voyageur qui m'avait dit ah, bah, à côté, là, j'étais au Mexique, à Puebla, c'est à côté de Mexico, pas très loin. Et il m'a dit ah, bah, moi, je suis là depuis un moment et j'ai été en week-end dans un village qui s'appelle Zacatlan, qui est pas très loin et où il y a un grand canyon et en fait il y a plein de circuits de randonnée et j'ai vu qu'effectivement ils avaient organisé l'Ultra de Mexico à cet endroit-là. Je me suis dit bah allez banco, je vais aller m'entraîner là-bas et c'était hyper chouette parce que pour le coup c'est vraiment pas un endroit qui est fréquenté par les touristes étrangers. Pour le coup le tourisme local oui. Mais pas du tout par le tourisme étranger. Et en fait, c'était magnifique comme endroit. Donc, je pense que j'y serais jamais allée si j'avais pas eu besoin de m'entraîner parce que, bah, pas sûr que je me sois dit, bon, bah, je vais aller faire un tour. Alors, il y a un très beau canyon et tout ça, mais je suis pas sûre que je me serais dit que ça aurait été une de mes priorités si j'avais pas eu à préparer cette course. Et en fait, c'était hyper chouette. Moi, j'ai rencontré plein de. Je suis passée par plein de petits villages où les gens, bah, forcément, ils ne voient pas beaucoup de touristes passer par là. Je m'étais entraînée pour l'altitude parce que je savais que la course était 83 km. On avait 3 000 et quelques de dénivelé. Mais la difficulté première, c'était l'altitude parce que on montait jusqu'à plus de 3 000 et on courait à plus de 3 000. C'est-à-dire on passait pas un col et on redescendait. On montait en haut. Comme une arête, un peu, enfin pas une large arête, on va dire, hein. Mais on restait courir en altitude. Donc il y avait peut-être 15 km de forêt à faire à plus de 3 000 de dénivelé. Donc c'est pas pareil que de monter à 2 600 et puis de redescendre, de rebasculer tout de suite, quoi. Là, on sait qu'on en a pour 2 heures peut-être à courir au-dessus des 3 000 de dénivelé et 3 500 même, je crois qu'on montait. Et forcément, ça impacte. Le physique, et, oui, il y a les maux de tête qui viennent avec. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, j'avais plus peur de l'altitude. Très honnêtement, c'était ça que j'avais préparé. J'avais eu la chance de trouver un hébergement avec d'autres Mexicains que je connaissais pas, mais qui avaient une place dans leur hébergement. Donc, au final, ça m'a permis de les rencontrer juste avant la course, de partager un petit peu avec eux. Et c'est vrai que c'était un gros événement finalement, quoi. C'est vraiment une grosse machine, quoi. Moi, j'avais pas trop d'attente. Je m'étais dit, bah, on verra. Ça va être la découverte. C'était mon deuxième 80. J'avais déjà fait un 80 en France, un 85 comme ça, avec plus de dénivelé. C'était le trail de Oisans. Oisans Trail Tour, là. C'était mon premier 80, 85. J'avais mis un peu plus de 14 heures, mais il y avait 5 000 de dénivelé. Donc, je m'étais dit, celui-là, il y a quand même moins de dénivelé. J'avais un peu progressé depuis. Et puis, il n'y avait pas trop de parties. La partie nuit était assez limitée par rapport à Oisans, où on faisait vraiment toute la nuit. Donc là, j'étais partie ouais, sur pas vraiment de temps. Juste me dire, je profite de la course, en fait. Puis, profite du paysage, profite de l'ambiance, parce que c'est quand même particulier de faire un trail à l'étranger. Toujours. Donc voilà, c'était un peu l'idée. J'avais pas vraiment d'objectif de temps, quoi. Je t'ai dit, voilà, je fais au mieux, suivant les conditions du jour. J'avais juste regardé un peu le parcours, mais franchement, j'étais pas vraiment très. Enfin, j'étais préparée physiquement, mais j'avais pas préparé la course en me disant à tel point de
Oui.
passage, je passe à telle heure, à tel point, je finis à telle heure. Non, c'est un peu, on y va. Il y a une grosse montée, on monte. Après, on court sur à 3 000, et là, faut gérer l'effort. Et puis après, il faut remonter de nouveau en plein soleil. À la mi-parcours, donc bah c'était j'avais un peu juste ça en tête et puis après c'était plus que YOLO quoi. On est toujours un peu stressé avant les courses, quoi. Moi, j'ai toujours le petit moment un peu excitation, stress, pas trop. Puis en plus, ils nous ont déblatéré pas mal de choses au micro, bah, le speaker, des consignes de sécurité en espagnol. Alors moi, bon, faut dire qu'il faut en mettre effectivement en contexte. Il est 4 h du matin, on se réveille, on va faire 80 km, donc on est un peu stressé, pas forcément attentif à ce que dit le speaker. Et puis il parlait très vite en espagnol dans un micro, donc j'ai pas trop écouté. Mais J'ai appris par la suite qu'il nous prévenait qu'il fallait faire attention aux ours, ce que je n'ai pas du tout écouté. J'ai pas du tout écouté les consignes, mais je n'ai pas croisé d'ours, je m'en suis sortie, tout va bien. Et donc voilà, moi, un petit peu de stress. Bah, je sais que mes chaussures étaient pas mal abîmées, j'avais peur d'avoir mal aux pieds. Bon, il y a tous les petits trucs de stress, tu vois, de début de course comme ça, qui te viennent en tête, où tu te dis, ah, si ça, et puis ça, et puis si je commence à avoir mal là, enfin bon. Ouais, ça, c'est moi. Je commence à toujours un peu à baliser au début des courses. Et puis, bah, voilà, après, on est parti. Alors, étonnamment, du coup, il faisait pas très chaud. Enfin, en tout cas, la température était très agréable au départ. Puis, on commençait, en fait, dans les gros cailloux, comme ça. Donc, c'était assez chouette. Ouais, parce qu'il faut s'imaginer, en fait, une espèce de vallée enclavée. Effectivement, semi-désertique, mais avec quand même de la végétation. C'est quand même une vallée qui est connue aussi pour ses vignobles. Donc, très ensoleillée et du coup, du vin. Le début de la vallée est très vert. Et puis après, bon, là où on courait, nous, c'est un peu plus clairsemé, effectivement, ce côté un peu aride qu'on voit, quoi. Donc, voilà, une vallée un peu encaissée comme ça, avec deux grands massifs sur les côtés. Et donc, on commence dans la vallée avec les cailloux. Il y a beaucoup de roulants au début. Et puis après, on attaque cette grande montée pour monter sur l'un des pans montagneux. C'est pas très technique, c'est un trail qui est vraiment pas technique dans la difficulté du terrain. Il y a juste effectivement ce côté altitude à gérer. Et moi, c'est vrai que sur la première partie, en fait, j'ai vu assez vite qu'en féminine, j'allais pas avoir beaucoup de filles à courir à mon niveau, quoi, parce que dès que ça a commencé à monter, voilà, j'ai assez vite pris de l'avance, quoi. Mais par contre, j'ai eu mon petit premier pépin qui était que mon bâton ne s'est pas déplié. J'avais mes deux bâtons de course qui étaient ceux qui m'ont servi du coup pour les randos et tout ça. Et j'avais fait une randonnée, je sais plus, 2 semaines avant, où j'avais pris un gros orage et j'avais du mal les sécher. Et du coup, quand je les ai dépliés, ils se clipsaient plus en fait. Enfin, tu sais, il y a une petite pastille qui permet de clipser le bâton quand il se déplie. Et impossible, impossible de réussir à déplier ce bâton, enfin de le bloquer en tout cas. Donc, c'était ah, bon, tant pis. Donc, je suis montée avec, on va dire, un bâton, et puis l'autre qui était un peu sur ressort. Et quand je suis arrivée au ravitaillement en haut, j'ai essayé de demander de l'aide aux bénévoles sur le ravitaillement. Et donc, là, les bénévoles voulant bien faire se disent qu'ils vont m'aider avec mon bâton. On m'a dit super. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas, je pense, compris exactement le problème. Ils se sont mis à deux de chaque côté et ont tiré sur mon bâton, donc l'ont arraché en deux. Elle dit, bon, bah là, de toute façon, là, il est sûr qu'il va plus marcher. Donc, bah, là, c'était un peu le truc que t'as pas envie que t'arrives, mais que ça arrive. J'ai eu de la chance, c'est que j'avais justement mon strap et je me dis, bah, je vais tenter de strapper le bâton, bah, un peu les moyens du bord, quoi. Donc, j'ai pris le temps. Donc, t'imagines, tout ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Hein. Strapper tout mon bâton, réussir à le faire tenir. Et il a réussi à tenir jusqu'à la fin. Alors, je pouvais plus le plier. Mais je pouvais quand même à minima appuyer dessus pour monter. Donc j'ai réussi à le faire survivre comme ça, en strappé jusqu'à la fin. Mais il m'a quand même bien dépanné parce que bon, c'est quand même. J'aurais pu le faire sans, mais ça aide. Les bâtons sont quand même aident quand même bien, surtout quand on s'est entraîné avec sur ce type de format, quoi. J'ai fait une petite partie de course seule parce que comme on n'est pas nombreux sur ces formats-là, bah, il y a un peu moins de gens aussi à courir avec toi. Je me suis rendu compte assez rapidement quand même que j'avais de l'avance sur les autres filles. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me speeder. En fait, j'avais envie de profiter de la course, prendre le temps de m'arrêter au ravitaillement, discuter avec les gens. Enfin, voilà, pas faire ma course toute seule avec mon chrono et me dire. Bah. Et ça, je pense que peut-être dériver un peu, mais je pense que c'est un truc assez. Les filles, on a du mal à se projeter aussi de finir première scratch. À part Courtenay, et on espère qu'un jour elle va réussir. Mais enfin, c'est vrai que c'est un peu, pour le coup, l'ovni dans le milieu, parce que c'est assez rare de faire des podiums en scratch chez les filles, quoi. Et donc, on ne se projette pas non plus en tête de course scratch. Et c'est vrai que je pense que sur cette course-là, si j'avais couru au niveau où je cours normalement, bah, je pense que je finissais en tête scratch, quoi. Mais bon, c'était pas le but et je regarde pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un peu le truc où je me suis dit, ah bah tiens, c'est rigolo en fait. C'est vrai qu'on a un peu ce truc puis où on se limite aussi à se dire, bah, une fois qu'on est première féminine, bah voilà, quoi. On va pas chercher, on se projette pas non plus à aller chercher les têtes de course masculins, quoi. À par effectivement certaines qui commencent à le faire. Et je pense que ça va aussi ouvrir un peu sur le sujet pour d'autres féminines, je pense. Donc oui, en tête de course, ouais, c'est ça, il y avait cette Mexicaine devant moi, je crois. Puis après, en fait, on a rattrapé d'autres courses, donc je me suis retrouvée à courir avec d'autres gens. En vrai, c'est vrai que c'est une course qui est passée assez vite, j'ai pas trop souffert sur la course. C'est chaud, mais comme on peut avoir chaud des fois sur certaines courses, on est un peu à découvert et on prend un peu le soleil. Donc c'est jamais agréable quand c'est les montées, on le sent un peu passer. Mais j'ai pas mal vécu du tout la chaleur sur cette partie-là. J'ai plutôt bien géré. Puis la montée, moi, j'aime bien ça. Donc, du coup, j'ai pas eu trop de soucis sur cette partie-là. Mais c'est là qu'effectivement, il y a les premiers qui ont commencé à caler sur même sur toutes les courses, puisque c'est à ce moment-là qu'on a récupéré les autres courses. Et c'est là qu'il y en avait qui commençaient vraiment à caler dans la montée, la deuxième grosse montée sous le cagnard. Je pense que c'était la partie la plus compliquée. Mais après, moi, c'est vrai que sur la course, j'ai pas eu de. Comme je disais, ouais, techniquement, c'est pas très dur. C'est vraiment le côté altitude. Parce que moi, j'ai eu quand même mal au crâne sur les plateaux en haut. J'ai pris un petit Doliprane, là, parce que je sentais que je commençais à avoir quelques douleurs. Mais autrement, le reste de la course, moi, j'ai pas trouvé de difficultés. L'ambiance était vraiment chouette. Il y avait pas mal de monde sur le parcours, ouais. Ouais, c'est quand même un événement qui draine pas mal de coureurs et du coup les familles aussi. Donc c'était aussi ça qui était chouette, quoi, d'avoir l'ambiance course, quoi. Genre mieux quand il y a un petit peu de monde. C'est vraiment un assez gros événement. Donc, il y a l'écran géant. Alors là, il y a beaucoup de monde, effectivement, à l'arrivée. Alors, c'est peut-être pas au niveau de Chamonix, mais on sent qu'il y a une petite ferveur quand même à l'arrivée. Et ouais, l'arrivée, elle est assez chouette. Ouais, on l'entend d'assez haut, le speaker parler, là, quand on redescend dans la vallée. Puis ouais, t'as un grand tapis, là, comme ça, qui mène jusqu'à une espèce d'énorme marche. Donc, moi, j'ai fini avec un coureur avec qui je courais depuis un petit moment. Je l'ai fait quoi en 12h, 12h05, c'est ça. Oui, c'est ça. 12h05, ça m'a fait première fille sur. On était 10, donc tu vois, c'est vraiment pas. On n'était pas sur un gros nombre important de coureuses. Et au scratch, ça doit faire 8e, c'est ça.
Et la deuxième féminine, elle arrivait combien de temps derrière
Bah,
toi?
elle est arrivée assez longtemps parce qu'on l'a attendu pour le podium et finalement ils ont fini par faire le podium sans que les autres filles soient arrivées parce que bah oui mais je pense que ça faisait déjà plus de 2 heures que j'étais là et du coup ouais non non je pense qu'elles étaient vraiment assez loin derrière ouais, je pense qu'elles doivent finir plus de 2 heures derrière. La bonne surprise de la fin de course c'était que du coup la coupe n'était pas une coupe mais était un trophée, un énorme dinosaure. En espèce de résine, je pense. Bah, bien fragile, hein, pour le coup. Ce qui est très pratique en voyage et qu'on n'a qu'un sac à dos, c'est d'avoir un dinosaure qui fait 40 cm de haut à ramener. Enfin, je me suis dit, mais c'est pas possible, je pourrais pas le ramener. Enfin, à aucun moment donné, je ne pourrais repartir avec un énorme truc comme ça. Mais en même temps, il était tellement bien que, pour la petite anecdote, du coup, ils avaient fait des dinosaures, effectivement, parce que je crois qu'ils ont retrouvé des ossements de dinosaures dans la vallée de Coahuila. Et donc, c'est devenu un peu le symbole du trail, quoi. Qu'est-ce que je retiens? Bah, plein de chouettes choses, au final. C'est qu'effectivement, je pense que c'est pas facile de. Enfin, en tout cas, moi, le dispositif dans lequel j'avais inscrit la course, c'est-à-dire de m'entraîner, voyager, préparer une course, c'est pas le plus simple. Ça reste très largement faisable. Après, il faut, je pense, bien choisir les pays peut-être dans lesquels on va s'entraîner pour être sûr de pouvoir bien le faire en toute sécurité. Voilà. Mais ça reste très largement faisable. Faut juste, voilà, bien s'organiser pour avoir quand même des endroits où on puisse s'entraîner bien. Par contre, ce qui est hyper chouette, et je pense que c'est pour ça aussi que je le recommanderais, c'est que ça reste un bon moyen de découvrir le pays, quoi. D'une autre façon, d'aller, comme je disais, de sortir un peu des endroits où on irait en tant que touriste et d'autres endroits où on irait juste pour courir, qui peuvent être un petit peu différents. Et au-delà de ça, c'est vrai que, en tout cas, même pour ceux qui veulent voyager, le Mexique et le Guatemala restent des beaux pays pour aller faire de la montagne, de la haute montagne. Il y a vraiment des endroits très très beaux, quoi.
Deux mois après l'Ultra Coahuila, Géraldine prend le départ du Grand Raid des Pyrénées. Une première pour elle sur un format de 120 km. Et quelle première, puisqu'elle monte directement sur la troisième place du podium féminin. Team Trail Experience est un podcast du Team Trail Paris, une association de coureurs parisiens dont le terrain de jeu favori est la montagne. Team Trail Experience, c'est un épisode par mois pour vous faire vivre les aventures running et trail d'athlètes amateurs, passionnés et passionnés. On vous dit à bientôt pour de nouvelles histoires.